RFI. Grand reportage.
Le continent africain est la région du monde qui connaît la plus forte croissance en matière de déchets. Et l'on va vers le pire. Selon la Banque mondiale, il y en aura 3 fois plus d'ici 2050. Si la filière du recyclage en Afrique est encore majoritairement informelle, elle s'organise peu à peu. Des start-up valorisant les ordures se montent, des entreprises prennent leur envol et des millions d'emplois sont créés. Le recyclage, un secteur d'avenir en Afrique. Un grand reportage de nos correspondants au Sénégal, en Guinée, au Togo et en Afrique du Sud.
En banlieue de Dakar, entre l'autoroute et la voie rapide qui longe la côte, une colline fumante au loin, la décharge de Mbebus. Un balai de camions déverse quotidiennement les ordures ménagères de la capitale. Elles se sédimentent dans cet ancien lac depuis 1968. La zone est difficile d'accès. Il faut une autorisation de l'État et surtout gagner la confiance des récupérateurs. Ce sont les habitants de Mbebus, un monde à part. Tous tirent profit des déchets sur le site. Une blouse verte, les mains gantées, Modane Ndiaye, comme tous les matins, part à la recherche de ce qui peut être récupéré.
Les pots en aluminium, je les mets à côté. Les pots en fer, je les mets à côté. Tout ne se mélange pas. On les finit comme ça.
Séparer aluminium et fer.
Aluminium à part. Fer à part, bouteilles, les bouteilles aussi. On la disperse. Vous voyez, ces deux bouteilles n'ont pas les mêmes qualités. Tout ce que je peux vendre, je le récupère. Il n'y a pas de distinction. Mais la majeure partie que tout le monde me connaît ici, c'est la toile imperméable. J'ai des collaborations avec les industriels qui, que eux, quand ils déversent leurs déchets, ils le déversent et c'est moi qui décharge la voiture. Tout ce que je gagne sur la voiture, c'est ma sens. C'est comme ça que je gagne l'étoile. Je gagne ma vie honnêtement sans déranger personne. Et je suis père de famille aussi.
Et c'est un business. Chaque semaine, Modane Ndiaye peut gagner environ 25 000 francs CFA, une quarantaine d'euros. Parfois plus, parfois moins. Tout dépend de la revente des objets au kilo. L'homme est là depuis le début. Il a vu la décharge s'agrandir de quelques parcelles à sa superficie actuelle. 114 hectares, près de 200 terrains de football.
J'étais un élève et j'accompagnais ma grand-mère qui venait chercher des chiffons pour coudre des draps de lit. Et au fur et à mesure, je regardais la décharge, ça me plaisait puisque j'étais un peu tout jeune. J'avais l'âge de 11 ans. Et puis au fur et à mesure, je continuais à suivre ma grand-mère. Lorsque nous venons ici, nous étions à un nombre de 150 personnes. Maintenant, on est un nombre de 2000 et quelques personnes. Donc, ça a grandi.
Un travail de forçat dans une atmosphère difficilement respirable. Les récupérateurs s'exposent aux incendies générés par la chaleur, de la décomposition des déchets, comme au rejet de gaz toxiques ou encore des risques infectieux. Modane Ndiaye minimise.
On n'a pas entendu parler de tuberculose ou quoi que ce soit. Et on vit ici dans la décharge. J'entends les gens dire des montagnes, comment on dit, ordures. Mais nous avons une montagne de l'or. Puisque rien n'est perdu ici. Tout. Même le sable, on le récupère, on le vend. Donc tout est à gagner. Rien n'est perdu ici.
Un peu plus haut, Abdulaziz Seck a une vue imprenable sur la décharge. L'homme est le président des récupérateurs, mais aussi à la tête d'une équipe. Ces dernières années, il a délégué la récupération. Une centaine d'hommes et de femmes travaillent pour lui.
Il y a des mères de famille qui soutiennent leur mari, les hommes soutiennent leurs parents. Je suis avec actuellement 80 femmes, 40 garçons. Je travaille avec eux sur le plastique. Pour les revenus, je paye au jour le jour. Les hommes, ils coupent pour 25 francs le kilo. Les femmes aussi, elles lavent pour 25 francs le kilo. Chaque jour, je paye.
Donc c'est comme si vous aviez une petite usine.
Oui, une petite usine, oui. Je veux qu'il soit grand ou quoi. Nous qui sommes là, on est en train de créer des emplois.
Mmh. L'État du Sénégal réfléchit à des solutions pour mieux encadrer le travail des récupérateurs sur place, mais se satisfait de ce recyclage informel. Toute une économie qui fait vivre de nombreux foyers à 1000 km aussi en Guinée. Certains font de l'or avec des déchets, ce sont les ferrailleurs.
Kissoso, c'est un peu le quartier des ferrailleurs à Conakry et Mustapha Kaba connaît tout le monde dans cette économie florissante.
Alors, je suis dans la ferraille, ça fait 10 ans. Je suis le président par intérim de la Fédération guinéenne des ferrailleurs.
Une filière encore très artisanale mais qui se formalise peu à peu.
Moi, je m'appelle Mamadi Yassine Diallo. Je fabrique ici marmite.
Le marmite qui est sur le feu où on met l'aluminium.
Sa matière première, les débris d'aluminium issus des canettes de boissons.
Ça va se brûler jusqu'à devenir la couleur rouge. Alors, on vient verser dessus.
D'accord. Donc ça, c'est les moules,
c'est les moules
pour faire les marmites.
Oui.
Un jour, c'est combien de marmites ici?
Non, c'est 7 marmites comme ça.
3 employés s'activent, certains pieds nus dans cette fournaise poussiéreuse.
Ah, ça fatigue.
Viens là-bas. Alors là, on est en train de marcher à travers un couloir de carcasses de voitures qui sont donc démontées et classées par ordre. Il y a les portières d'un côté, il y a les pare-brises d'un autre. Ah, je peux venir ici ? C'est écrit quoi ? Coopérative ?
Coopérative.
Artisanale. Des producteurs, des foyers
améliorés. Voilà.
Vous avez quelque chose dans votre main là ? C'est quoi ?
Le charbon.
Le charbon, c'est là où on met le charbon. Le fourneau, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les rues de Conakry quand on prépare la cuisine.
On va couper tous les morceaux là, c'est la pâté ici. Voilà.
3 petits fourneaux sortent chaque jour de l'atelier qui rapportent autour d'1 euro chacun. Rien d'exceptionnel, mais ça fait vivre la famille.
Et dites-moi, qu'est-ce que c'est ça ici là ?
Ça là, c'est pour le ferraille à la usine.
Ah, ça c'est la ferraille que vous gardez pour ensuite aller vendre à l'usine Odav ?
Oui.
Odav, une entreprise indienne d'exportation de ferraille qui décide en 2014 d'installer la toute première fonderie industrielle de Guinée pour transformer sur place la matière première, c'est-à-dire la ferraille, en fer à béton.
Sur le site de l'usine de fer à béton Odav, on s'approche d'un énorme tas de ferraille.
Derrière, nous avons 2 grands fourneaux où nous faisons fondre la matière première, c'est-à-dire la ferraille.
Ali Imtiaz, directeur des achats.
Les gens de toute la Guinée amènent la ferraille ici, on décharge et on choisit ce qui nous intéresse et on fait fondre.
L'usine emploie directement 400 personnes et compte atteindre une capacité de 9000 tonnes d'ici la fin de l'année selon la direction, une aubaine pour la Guinée.
La Guinée se développe, elle construit des infrastructures et elle a besoin pour cela de fer à béton. Il y a beaucoup de constructions à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'installer ici. C'est pour ça qu'on doit terminer notre extension le plus vite possible.
Odav s'inquiète de l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'industrie, mais pour les ferrailleurs, la concurrence représente une opportunité. Dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, au Togo, il n'y a pas que la ferraille qui fait l'objet de convoitises, mais beaucoup d'autres déchets non ménagers.
Nous sommes à Lomé, c'est là qu'Africa Global Recycling a été créée en 2013. Cette PME fait du plastique, du métal, du papier, une ressource. Chaque jour, les 3 camions d'Africa Global Recycling, AGR, sillonnent Lomé pour ramasser les déchets. Nous suivons l'un d'entre eux, premier arrêt dans une entreprise qui pose la fibre optique. Dans la cour, 5 bacs de tri sont rangés côte à côte, avec à l'intérieur de grands sacs recyclables. Kofi Tosu et ses collègues les enlèvent et les remplacent.
Le couleur jaune, c'est pour les papiers. Et le couleur verte, c'est pour les plastiques. Le couleur bleu, c'est pour les métaux. Et le couleur noir, c'est pour les verres. Et le grand bac là, c'est pour les câbles. Les agents qui sont ici, lorsqu'ils ramassent les déchets, ils mettent selon ce qui est écrit sur les bacs. Et puis nous aussi, ça, on vient, ça nous facilite la tâche de ramasser ça rapidement.
Le tri avant la collecte, c'est le principe. Ici, on s'y est mis depuis 4 mois. Inès Atibadou, la responsable qualité, sécurité, environnement, explique ce choix.
C'est déjà pour maîtriser nos impacts environnementaux qu'on a décidé de mieux gérer nos déchets. Et puis aussi, on avait aussi l'assurance que les déchets seraient traités correctement. Voilà. On a même eu l'opportunité d'aller visiter leur centre. Donc ça nous a vraiment rassurés de leur confier cette mission-là. Et ils ont d'ailleurs fait un effort sur les câbles, parce qu'en fait c'est de la fibre optique, donc ce n'est pas un déchet qu'ils traitaient précédemment. ils ont trouvé des filières de retraitement.
Aujourd'hui, Africa Global Recycling compte 150 clients, entreprises, institutions, administrations. La société achète la majorité de ce qui est ramassé, entre 10 et 600 francs CFA le kilo, selon la matière, la qualité, la propreté. Autre source d'approvisionnement, l'informel. Elias Koudji est responsable de ce secteur pour AGR. Il se rend sur une décharge sauvage dans le quartier de Tokoin d'Obeavu. Des jeunes revendeurs fouillent parmi les tas de plastique, de ferraille, de vêtements. Un de Kofi Koudji a un sac de bouteilles plastiques abîmées.
Il a commencé par trier les bouteilles d'eau. Moi, je viendrai l'acheter. Mais une fois que ce serait, par exemple, 10, 20 sacs comme ça, ça pourrait me faire plein d'un véhicule.
Là, c'est quelle quantité à peu près?
Ça ne fait même pas encore 5 kilos. Là. Avant d'avoir 200 kilos, 300 kilos, il faut des sacs. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas tellement envie de nous fournir ces déchets-là parce qu'ils disent que ça leur perd le temps. Mais la sensibilisation continue. C'est notre boulot, c'est ce qu'on fait.
Jusqu'à ce que vous veniez, qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces bouteilles plastiques-là?
Avant, là, ils les brûlaient.
Malgré tous les risques, maintenant, Kofi Koudji, jeune Togolais né au Ghana, préfère les vendre.
25 francs, the price of 25 francs.
C'est acheté à 25 francs CFA le kilo, mais c'est mieux que de jeter les bouteilles au feu, alors ça me va.
Right now you are selling it, it's good.
C'est dans un centre de tri au cœur de Lomé que tout arrive, environ 350 tonnes par mois cette année. Tout est bien rangé, les bouteilles plastiques et les canettes compressées sont empilées. Le verre, les composants électroniques remplissent d'énormes sacs. Deux broyeuses réduisent les déchets en petits morceaux. Justement, une dizaine de balles de copeaux de plastique doivent être exportées. Edem Dalmeda, le patron d'AGR.
On est en pleine production pour alimenter une filière soit plasturgiste, soit la filière textile pour refabriquer des produits en polyester.
Cette cargaison va partir vers l'Europe, principale cliente. Eden Dalmeda a travaillé près de 15 ans dans la valorisation des déchets en France. Il a aussi été négociant, une expérience qui lui a permis de créer cette filière.
Nous trions ici près de 50 types de plastiques différents. Sur le papier, nous trions près de 30 types de papiers différents. Et ceci correspond à chaque fois à un cahier des charges bien précis de l'industriel qui va recycler le produit.
Est-ce que c'est un modèle de récupération qui est rentable?
Bien sûr que c'est un modèle de récupération qui est rentable. C'est un chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA. Nous avons triplé le volume par rapport à l'année dernière. C'est un site qui compte aujourd'hui 80 emplois. La gestion durable, optimisée des déchets, passe par l'entreprise. Et il faut justement que les gouvernants, que les institutions le comprennent. Nous faisons la démonstration que... Il s'agit vraiment d'un vrai levier de développement pour notre pays, le Togo, pour le continent africain.
Et après le recyclage, Africa Global Recycling veut transformer localement les déchets et répliquer son modèle dans la sous-région. De l'autre côté du continent, en Afrique du Sud, le recyclage est déjà un secteur très porteur.
Nous sommes à Bryanston, au nord de Johannesburg, dans un parc de bureaux situé près du quartier d'affaires de la ville. En Afrique du Sud, le recyclage est avant tout motivé par les opportunités économiques. Près de 100 millions de tonnes de déchets sont produits par an, ce qui représente une valeur de plus d'1,5 milliard d'euros selon les experts. Moins de 40% est recyclé, mais des entreprises privées ont construit un business à partir de certains déchets comme le plastique.
En ce qui concerne le taux de recyclage pour les emballages en Afrique du Sud, en 2018, 58% a été collecté pour être recyclé.
Shabir Gentam a créé son entreprise pour recycler le verre. Il est également à la tête du syndicat qui regroupe les entreprises de la filière de l'emballage dans le pays.
Et notre cible d'ici 5 ans, c'est d'arriver à un taux de 66,9%. C'est plus que la cible de l'Union européenne pour 2025 de 65%.
La filière du recyclage est de plus en plus perçue comme pouvant créer de la richesse, mais surtout des emplois dans un pays où le taux de chômage frôle les 30%.
Environ 60 000 ramasseurs gagnent leur vie grâce aux déchets qu'ils collectent. Et c'est une industrie florissante, car en Afrique du Sud, nous traitons presque tout nous-mêmes, donc c'est un système en boucle fermée et nous ne dépendons pas des exportations. Beaucoup de déchets qui sont générés dans les pays voisins sont envoyés et recyclés ici.
Le pays va même plus loin en s'attaquant à la question du recyclage des déchets électroniques, la catégorie de déchets qui grossit le plus vite dans le monde.
Voici l'entreprise Desco Electronics Recycler. Je vais vous montrer ce que nous faisons.
Giulio Araga travaille pour Desco, l'une des plus anciennes entreprises de recyclage de déchets électroniques du continent, installée à Johannesburg.
Les déchets électroniques, ce sont tous les objets qui sont alimentés par une prise ou une batterie, ou bien qui produisent de l'énergie. Donc ici, comme vous pouvez voir, on trouve des télés, des imprimantes, il y a des serveurs là-bas et des câbles. Et à partir de là, on va faire un premier tri, puis envoyer le tout vers la prochaine section où ils seront démantelés.
L'Afrique du Sud produit près de 400 000 tonnes de ces déchets par an. Et les entreprises comme Desco n'en recyclent que 10%. Le reste finit dans des décharges, ce qui peut représenter un grand risque sanitaire.
Si les déchets électroniques arrivent dans une décharge, lorsqu'ils vont se dégrader, les nombreux produits chimiques qu'ils contiennent vont aller dans le sol, contaminer l'eau des nappes phréatiques. Et lorsque des ramasseurs informels brûlent ces déchets pour essayer de récupérer, par exemple, le cuivre à l'intérieur des câbles, la fumée peut se propager. Elle affecte le système respiratoire et peut provoquer des maladies.
Dans un grand hangar, les objets sont démontés par des employés comme Zakaria. Les différents matériaux obtenus seront ensuite revendus à des marchands.
Là, tout ça, je dois le démanteler. Le cuivre, ça va d'un côté, l'acier de l'autre, on sépare bien tout et après l'aluminium va là.
Ne reste ensuite que les circuits électroniques qui sont broyés mécaniquement. Mais extraire les matières précieuses comme l'or, l'argent ou les métaux rares n'est pas encore assez rentable dans le pays.
On exporte notre matière finale vers l'Europe et ils finissent de le transformer là-bas. Ils extraient les métaux précieux du reste, ce qui est très compliqué et coûteux. On voudrait pouvoir le faire, mais on aurait besoin de l'aide du gouvernement pour nous aider à atteindre cette dernière étape. On ne peut pas le faire maintenant avec nos propres moyens.
Desco emploie près de 80 personnes et fait aussi travailler des entrepreneurs qui fournissent des pièces déjà démantelées. Mais si les affaires étaient bonnes il y a 20 ans, les déchets électroniques ont peu à peu perdu de leur valeur, selon Giulio Araga.
Quand on a commencé, c'était un bon business parce qu'on récupérait suffisamment de matière à la fin. Mais le téléphone que l'on avait il y a 5-10 ans était bien plus lourd que ce qu'on a maintenant. Tous les équipements électroniques sont de plus en plus petits et sont fabriqués avec des matériaux sans valeur. Avant, c'était fait avec de l'acier, de l'aluminium. Maintenant, tout est en plastique. Donc à la fin, on a moins de matière.
Il faut aussi réussir à localiser et collecter ces déchets électroniques, en motivant la population à les mettre de côté.
Je ne pense pas que les gens s'en soucient. S'il n'y a pas de gain derrière, ils ne vont pas le faire de leur propre initiative. Il faut leur offrir une compensation, ce qui est plutôt juste, puisque c'était quelque chose de valeur qu'ils possédaient. Si on peut leur acheter, cela va les pousser à davantage recycler. Mais pour cela, il faut que l'on diminue nos coûts et qu'on obtienne du soutien.
De telles initiatives de recyclage sont saluées par les associations de protection de l'environnement, mais pour Nklankla CBC, qui fait partie de l'équipe de campagne de Greenpeace pour le climat, la solution serait aussi de réfléchir à pourquoi nous produisons autant de déchets.
À la fin, si l'on garde la mentalité du recyclage, il y aura quand même du gaspillage. C'est ce qui nous pousse à surconsommer. Souvent, on consomme des produits dont on n'aurait pas besoin si fréquemment et en de telles quantités. Donc il faut qu'en tant que citoyens, nous ayons un changement de comportement. Et grâce à cela, on pourra pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités, à mettre en place les bonnes mesures pour ne pas arriver à cette situation, car oui, nous pensons que certains déchets que nous produisons n'auraient pas dû exister.
En attendant un changement de mentalité qui pourrait prendre du temps, les déchets sont une opportunité. De plus en plus d'entrepreneurs sur le continent africain l'ont compris et parient sur cette nouvelle économie.
Le recyclage, un secteur d'avenir en Afrique. Un grand reportage de William Deleuceux à Dakar, Carole Valade à Conakry, Delphine Bousquet à Lomé, Claire Bargelès à Johannesburg. Un magazine coordonné par Julie Vandal. Réalisation Pierre Chaffangeon.
Appelez-nous, exprimez-vous.